Radio Barque, notre deuxième partie de cette 25e, voit dans le sommaire annoncé tout à l'heure, Michel, des difficultés de gestion pour l'Arena de Montpellier. Et sérieuses.
Ah oui, mais pourquoi ce sujet, l'Arena de Montpellier à Radio Barque, Jean-Claude? Pour une raison simple, c'est que tu le sais aussi bien que moi, comme tous nos auditeurs d'ailleurs, le maire de Narbonne a décidé de faire un petit Arena à Narbonne.
Oui, même si ça s'appelle pas comme ça.
Non, mais il l'a présenté quand même comme ça, en fait. Souvent, bon, salle multimodale.
Il y aurait la volonté de faire ça, oui.
Bref. En tout cas, sur un format beaucoup plus, enfin, un peu plus petit que celui, que l'Arena de Montpellier, à peu près la même philosophie, quoi, hein. Sport, hein, et spectacle, et congrès. Même système qu'à Montpellier. Sauf que personne n'y a pris garde. Enfin, en tout cas, personne n'a relevé l'information dans la presse locale. L'Arena de Montpellier, qui est gérée par une société d'économie mixte qui gère à la fois l'Arena de Montpellier, le Parc des Expos, le Zénith et le Corum. Et dans cet ensemble, l'Arena de Montpellier est quasiment en liquidation de biens. Ce qui d'ailleurs a amené Philippe Sorel à piquer une grosse colère, en fait, lors d'une conférence de presse en disant « Je ne peux plus suivre ». Il est président de la structure, lui, hein, Sorel. Il y en a marre, donc je demande un audit immédiatement, on me le rend dans 6 mois, ça peut plus durer, parce que les deux structures qui sont propriétés de la métropole, c'est-à-dire le Zénith et le Corum, sont excédentaires. Par contre, les deux qui sont propriétés de la région, l'Arena et le Parc, sont déficitaires, et j'en ai, dit-il, ras-le-bol, effectivement, de financer par mes activités métropolitaines le déficit de l'Arena de la région. Et c'est pas rien, quoi, hein, parce que l'Arena plus le Parc des Expos, c'est moins de 3,8 millions de déficit.
Annuel.
Annuel. Mmh. Hein, ce qui est énorme. Alors, et là-dedans, dans les 3,8, c'est l'Arena qui plombe le tout. La salle, donc, multimodale de Montpellier. Mmh. Qui a effectivement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en fait, hein, enfin, à l'instant, plutôt, la même structure, hein, que celle prévue par Didier Moissel Multimodal.
Or, Montpellier, ça n'est pas Narbonne.
Ce n'est pas Narbonne, d'autant que, par exemple, pour la partie sportive de l'Arena de Montpellier, qui loue la salle, en fait, loue entre guillemets, je j'expliquerai pourquoi après. Qui loue la salle de l'Arena? Ben, c'est le Montpellier Handball. C'est quand même pas rien, hein, c'est le club de Montpellier.
Ah, c'est un gros club.
C'est un gros club, sinon le plus gros club de France, avec une pléiade d'internationaux. Ben, sauf que, ben, pour remplir les caisses, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la métropole, c'est les collectivités locales qui achètent des places. Et pour un montant considérable, mais qui n'est pas suffisant pour faire vivre le club en question. Et qui ne fait qu'aggraver, effectivement, le déficit structurel de cette aréna. Alors, je ne sais pas si nos élus narbonnais s'intéressent à la ville montpelliéraine, mais je le recommanderais en tout cas, s'ils s'y intéressaient.
De bien se pencher,
de bien
sur,
se
ce
pencher
cas.
Sur ce cas très précis, en fait, hein, et qui n'est pas très loin de chez nous, quoi, hein, de Montpellier, qui pourtant est bien placé, je parle de la capitale régionale, quoi, de l'Aix plutôt, pour imaginer ce que pourraient être effectivement les conditions de gestion de la future salle multimodale.
Voilà, ça pourrait être riche d'enseignements. Oui, alors un mot là-dessus, Isabelle Herp.
Oui, donc ça confirme effectivement ce que disent les élus J'aime Narbonne depuis un certain temps, que le projet de Monsieur Mouly de salle multimodale est un projet démesuré, qui va coûter un argent fou aux Narbonnais, en termes de construction et en termes de fonctionnement, et que c'est pas du tout adapté aux activités que l'on souhaite mener sur Narbonne dans le domaine culturel et sportif, puisqu'il existe déjà des salles et qu'il faudrait revoir le projet en termes de dimensionnement, effectivement, et en termes financiers. Et je ne parle pas, évidemment, de l'emplacement, hein, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre de citoyennes narbonnais, 2000 personnes qui ont signé une pétition pour éviter que cette salle soit effectivement construite dans un lieu poumon vert de la ville.
Ce qui confirme qu'on en reparlera encore. Voilà, mais en tout cas, un cas intéressant à soulever. Revenons sur... restons dans la région, puisque ça concerne la présidente, Carole Delga, et sa vision du marketing viticole, dis-tu.
Oui, cette semaine, elle est venue rendre visite. Alors, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, j'insiste toujours sur les deux, même si ça paraît un peu long, présidente socialiste de la région Occitanie, Languedoc-Pyrénées, qui soutient Benoît Hamon, est venu mercredi à Grusson, hein, rendre visite fait à son troisième vice-président
Didier Codorniou,
radical de gauche, Didier Codorniou, soutien d'Emmanuel Macron, je le disais au passage, quoi, hein, à l'occasion d'une rencontre vigneronne, hein, plutôt rencontre des vignerons indépendants à Grusson. Vignerons indépendants qui rassemblent les vignerons indépendants, comme on l'indique, pas les coopérateurs.
La police lui dit la même chose.
Oui, mais enfin, il faut préciser, parce que nous, on a un syndicat des vignerons, j'en dirai deux mots, mais c'est jamais précisé, syndicat des vignerons coopérateurs. Donc mais on peut avoir la confusion.
C'est vrai que là encore, il y a pas... deux choses différentes.
Exactement. Donc, Carole Delga, à cette occasion-là, devant ces vignerons indépendants, a mis en évidence le fait que oui, ils faisaient du bon travail. Alors, le slogan des vignerons indépendants, c'était « il faut casser les codes ». Il faut casser les codes.
Hein, oui. D'accord. Jeu de mots assez malheureux.
Oui.
Finalement.
Carole Delga a dit « oui, vous avez raison, en fait, il faut innover au plan marketing ». Et dans la foulée, elle rajoute, et j'en profite d'ailleurs pour, au passage, soutenir l'action en fait des vignerons en fait qui ont manifesté en fait à Narbonne en fait hein, ils étaient 4000 etc contre la concurrence sauvage des vins espagnols etc dont je rappelle au passage que cette manifestation s'est traduite aussi en fait, par saccage
par
des débordements dans des supérettes ou des bouteilles de vin étrangers entre guillemets en fait ont été envoyées par le sol en fait bon il y avait du vin partout des images qui ont fait le tour du monde en fait sur la planète. Et je me disais, en fait, lisant cela, pour casser les codes, effectivement, Carole Delga, puisqu'elle soutenait effectivement l'action de ces vignerons indépendants, là, en fait, ses amis qu'elle soutient en même temps, en fait, eux les cassent, mais visiblement d'une manière qui n'est pas du tout, en fait, commercialement parlant, payante. Hein. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que la presse locale qui a rendu compte de cette initiative des vignerons indépendants a rendu compte aussi de la colère, dans la même page, hein, de Frédéric Rouanet, le président des syndicats des vignerons, qui, avec sa gouaille, bon, je pèse mes mots, quoi, hein, je ne veux pas être victime de l'action du CRAV, enfin, du comité de rédaction viticole, devant chez moi, quoi, parce qu'ils vont croire que je leur en veux beaucoup. Non, mais, je ferme la parenthèse. Mais, avec sa gouaille, enfin, hein, il disait, mais ces candidats à la présidentielle se foutent de nous, en fait. Ils nous méprisent, en fait, hein. Il y a une semaine, en fait, j'ai fait une liste, il y avait au moins 20, en fait, 20 ou 40 points, je ne sais plus, en fait, de mes revendications. Ils ne nous ont pas entendus, et le Premier ministre non plus. Entre parenthèses, Jean-Claude, quand même. Comment peut-on imaginer, hein, que, à la veille enfin, à la veille, c'est la fin du mois, hein, que le Premier
ministre. Ah, ben, c'est dans moins de trois semaines. deux semaines, on va dire.
Quand on a un cerveau à peu près normalement constitué, comment peut-on imaginer que, à la fin du mois, hein, le Premier ministre Bernard Cazeneuve, en fait, va satisfaire les 40 revendications exposées, en fait, la semaine d'avant par M. Rouanet, hein, et que, ne le faisant pas, en fait, il se foutait, en fait, il méprisait les viticulteurs. Mais franchement.
Oui, ce pauvre Premier ministre n'aura pas eu le temps, de toute façon, de faire grand-chose.
Je note au passage que les parlementaires aussi, enfin, nos parlementaires, sont discrets comme eux, bon, comme, je trouve pas la comparaison, je la donne pas d'ailleurs, parce que je pourrais être désobligeant, sont d'une discrétion remarquable. Les mêmes qui étaient au bas de l'estrade de M. Rouanet quand il haranguait effectivement le gouvernement en disant « Vous ne nous avez pas écouté pendant 5 ans », nos parlementaires étaient au pied de l'estrade comme si ils avaient été des parlementaires d'opposition. Sur le coup, quand même, entre parenthèses, je me dis mais voyons voir, Michel, est-ce que tu rêves ou quoi, en fait ?»
Certains auront remarqué
est-ce que Mme Fabre et M.
Courteau
étaient membres des Républicains. Alors, je sais bien qu'on a bien de confusion aujourd'hui, quand M. Mouly va soutenir la candidature de Mme Fabre, en fait, prochaine.
Enfin, oui, bref, bon, mais ça, c'est autre chose.
Même, quoi, hein. Non, mais tout ça pour marquer, en fait, hein, et pour faire observer à nos auditeurs que dans cette période-ci, en fait, on assiste à un bal, en fait, d'hypocrisie et à un concert d'hypocrisie qui, quelquefois, je dois te l'avouer, me met très en colère, comme ce matin, par exemple.
Oui, voilà. Il y a de quoi être désorienté, ce qui ne nous empêche pas de devoir marquer une seconde pause. Je le rappelle, tout de suite après, nous retrouvons notre invitée, Isabelle Herp.
À tout de suite.